17h09 sur Alger, chaîne 3 dans le magazine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Leïla Djebbour. Ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien de l'information. Deux heures pour revenir sur les événements marquants de l'actualité à travers des reportages, des analyses, en compagnie de nos confrères journalistes et reporters sur le terrain. Au programme ce soir, le reportage du jour sera consacré aux préparatifs à l'approche du mois sacré de Ramadan. Rimbou Kadoum nous emmène au cœur des marchés, dans l'effervescence des étals. Entre respect des traditions, organisation des achats et vigilance sur les prix, les ménages se préparent à accueillir ce mois béni et de partage. Et dans l'instant santé, focus sur la consommation alimentaire pendant le jeûne. Qu'est-ce qu'une bonne hygiène alimentaire? Quels excès faut-il éviter pour préserver sa santé et son équilibre? Hassan Chemesh est revenu sur toutes ces questions avec le professeur Kadri de l'hôpital Bir Traria à Alger. L'actualité internationale, c'est dans Zoom sur le monde avec Lies Telrini. Gros plan sur une nouvelle étape préoccupante en Cisjordanie. Netanyahou met en œuvre un plan d'annexion de facto à travers une série de mesures administratives avec l'instauration d'une administration parallèle à Al-Khalil et l'extension du déploiement de l'armée dans des zones sous contrôle palestinien. Ces décisions viennent fragiliser les accords d'Oslo et la perspective d'une solution à deux États. Et direction Tizi Ouzou avec notre correspondant du jour, Mohamed Haouchine, pour suivre le projet d'extension du téléphérique. Un chantier qui promet de faciliter les déplacements et de désengorger la circulation. Nous découvrirons les avancées de ce projet d'envergure. La rubrique TIC et médias, c'est en deuxième partie de ce magazine. Reda Menassel s'intéresse à une innovation fascinante, un nouveau type de cuivre ultra résistant conçu grâce aux nanostructures, une avancée qui pourrait révolutionner de nombreux secteurs industriels et technologiques. Et côté culture, Nadia Siassi nous plongera au cœur de l'univers de Nesrine Hellali, médecin, thérapeute et poétesse. Elle allie peinture et poésie pour créer des œuvres qui apaisent l'esprit et éveillent les émotions, offrant un véritable chemin vers le bien-être intérieur. Tous ces sujets seront traités durant ce magazine jusqu'à 19h. Ça commence tout de suite par le reportage du jour.
Le reportage du jour.
Et nous allons avec Rimbou Kadoum au cœur de l'ambiance des marchés à l'approche du mois sacré de Ramadan. Entre traditions bien ancrées, courses de dernière minute et choix réfléchis pour maîtriser le budget, les familles se préparent chacune à leur manière à ce mois si particulier.
Comme à l'accoutumée, à l'approche du mois sacré de Ramadan, les marchés sont pris d'assaut. Entre ravitaillement et achats divers, l'effervescence est palpable au cœur des marchés. Une tradition bien ancrée, presque un rituel que les ménages perpétuent chaque année. Un budget spécifique et parfois entièrement consacré au renouvellement de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, faisant de ces emplettes un véritable moment de plaisir pour certaines.
Une somme d'un million juste pour la vaisselle. Juste un service simple.
Entre les courses qu'on fait dans les supérettes, c'est 20 000 dinars. Et en termes de viande, on achète petit à petit, à peu près, c'est 50 000 dinars.
Pour d'autres, la frénésie des achats reste maîtrisée. Les dépenses sont rationalisées, les listes soigneusement établies, priorités clairement définies. C'est avec modération et prudence qu'ils préparent l'arrivée du mois sacré, privilégiant l'essentiel.
On n'a pas de dépenser beaucoup. Je vais l'acheter à la mizaniya.
Lors d'une virée dans les marchés, le constat est sans appel. Un véritable rush s'installe, les citoyens remplissent leurs couffins tandis que les commerçants visiblement satisfaits se frottent les mains. Comme chaque année, cette période marque l'heure des bonnes recettes, portée par une forte affluence et une demande soutenue. Malgré la diversité des attitudes entre achats compulsifs, dépenses importantes et comportements plus rationnels, le Ramadan demeure avant tout pour les Algériens un mois de piété, de solidarité et de partage.
C'était le reportage du jour avec Karim Boukhadoum. On continue ce magazine en musique avant de retrouver l'Instant Santé. Dans le magazine, place à l'Instant Santé.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
L'Instant Santé avec Hassan Chemesh.
Et à l'approche du mois sacré de Ramadan, Hassan Chemesh s'intéresse à nos habitudes alimentaires. Quelle hygiène alimentaire adopter pendant ce mois? Quels aliments privilégier et lesquels éviter pour préserver sa santé? Élément de réponse avec le professeur Kadri de l'hôpital Bertraria à Alger.
Professeur Kadri, bonjour. Vous travaillez au niveau du service de médecine interne à l'hôpital de Bertraria. Professeur, nous sommes à l'approche du mois de Ramadan. Quel est le bon comportement à adopter durant le Ramadan, professeur?
Un bon comportement, je dirais une bonne hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, elle est recommandée non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi pendant le Ramadan où il y a des spécificités qui sont en rapport avec le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire hygiène de vie? Hygiène de vie, d'abord, c'est un traitement sans médicaments. C'est un traitement sans médicaments qui va reposer sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est l'alimentation, c'est-à-dire d'avoir une alimentation saine, qui est varié, équilibré, modéré et qui s'inscrit dans la durée. Le deuxième point, c'est d'avoir une activité physique qui est adaptée à tout un chacun, selon son âge, selon sa maladie, etc. Le troisième point, c'est la perte pondérale chez un sujet qui est en surpoids ou obèse, lorsqu'on sait que l'obésité est classée par l'OMS comme étant une maladie chronique. L'autre point, c'est le tabagisme, c'est d'arrêter de fumer lorsqu'on sait que le tabac, c'est une véritable usine chimique, c'est un ennemi de la santé publique qui est à l'origine donc de décès prématurés et de maladies évitables telles que l'infarctus du myocarde, telles que des AVC, les gangrènes, les artériopathies, les cancers, surtout les cancers bronchopulmonaires. On se conseille donc, c'est des cancers que l'on achète avec son argent. Il y a aussi le sommeil. Le sommeil, le respect du temps de sommeil, on sait que le manque de sommeil est à l'origine de beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a des perturbations hormonales. Lorsqu'on dort, le tissu adipeux sécrète une hormone qu'on appelle la leptine, qui est anorexigène. Mais lorsqu'on est réveillé, l'estomac sécrète une hormone, la gréline, qui nous fait manger, qui est orexigène. Et cet état, donc, est corrélé à l'obésité, au surpoids et à l'obésité. Il y a, bien sûr, la gestion du stress. Lorsqu'on sait le stress est connu, on vit une époque de stress, donc qui est à l'origine des perturbations hormonales, notamment le cortisol, donc qui est à l'origine du diabète, l'hypertension et beaucoup de maladies. Et il y a la préservation du microbiote intestinal, ce monde invisible, surtout le microbiote intestinal qui est considéré comme un véritable organe et qui a des interrelations avec le cerveau. Et bien, lorsqu'il est perturbé par les médicaments qu'on prend, etc., et bien, il est à l'origine d'un très grand nombre de maladies.
Alors, manger sainement, que faut-il éviter? Que faut-il favoriser?
En conseil, c'est-à-dire quand on dit que l'alimentation doit être variée, chaque repas doit comporter des glucides, des lipides, des protéines, donc des fruits et légumes, donc les produits laitiers, etc. Mais dans les glucides, dans ces sucres-là, je ne fais pas allusion aux sucres transformés, aux limonades, aux jus, à la pâtisserie. Au contraire, c'est les glucides complexes et les produits complets, tels que les céréales, donc les céréales complètes, qui apportent donc de l'énergie, qui doivent constituer 75% des apports. Il y a bien sûr les graisses, il y a les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Les graisses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il ne faut pas en abuser parce qu'elles sont très énergétiques. Surtout les mauvaises graisses sont associés aux problèmes cardiovasculaires et notamment les viandes rouges qui sont associées aux problèmes cardiovasculaires et l'excès de viande rouge est associé au cancer du côlon. Malheureusement, nous, le mois de Ramadan, on consomme énormément de viande rouge. Le bourek fait la viande, le charba fait la viande, le djouaz fait la viande, ou yachtimha bilhamel alou. Voyez un petit peu, donc il faut éviter les viandes trop grasses, les viandes. Par contre, on a nos amis, nos alliés, qui sont les fruits et légumes. L'OMS recommande 400 grammes par jour, c'est-à-dire 200 grammes de légumes par repas. Pourquoi? D'abord, on dit une assiette bien colorée parce que chaque couleur est un anti-cancer, contient des antioxydants, donc qui préviennent le vieillissement précoce et le cancer. Et puis les fibres, d'abord ça bourre. 2. Et 3, les fibres qu'il contient, ce que vous allez manger après, vont freiner, réduire le passage du sucre et du mauvais cholestérol. C'est un traitement donc sans médicaments.
Parfait. Professeur, vous avez parlé du sport. Le sport, on peut pratiquer du sport durant le Ramadan?
On ne peut pas séparer la diététique de l'activité physique. C'est un mariage de toute la vie. Pourquoi? Parce qu'on devient obèse lorsqu'on a la balance énergétique qui est déséquilibrée, lorsque les apports sont supérieurs aux sorties, lorsqu'on mange beaucoup plus qu'on ne dépense, eh ben, c'est là qu'on prend du poids. Ce qu'on ne brûle pas, eh ben, on va le stocker. L'activité physique est importante parce qu'elle va compléter donc l'action de la diététique. Ça permet de lutter contre l'obésité, contre le surpoids, les maladies cardiovasculaires, prévention de certains cancers, améliore la circulation. Donc, elle a l'activité physique.
Professeur Khadri, merci beaucoup.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto blues from the refugee camp.
Story. Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later, yeah.
Mama chola, ahora vengo, mama chola.
East Coast,
ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama
Maria, West Coast. Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, she living the life just like a movie star. Carlos Santana. I said a La Favela, Boca Lourdes. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola.
Southside.
Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola.
Worldwide.
Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola.
Open up your eyes.
Another one. Another one.
We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rockin' with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down tonight. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts.
Maria, you know you're my lover.
What up, y'all?
club. Jerry Wonder, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
Il est 17h30, on retrouve tout de suite l'actualité internationale.
Zoom sur le monde avec Liesther Reni.
Et on s'intéresse aux nouvelles mesures du gouvernement Netanyahou, des décisions perçues comme une annexion de facto et qui compromettent un peu plus la solution à deux États.
Monsieur Adnan Liman, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, professeur de droit public et de relations internationales. Les nouvelles mesures administratives sionistes en Cisjordanie peuvent-elles être considérées comme une annexion de confiscation des terres et des lieux religieux historiques? Quelles sont les conséquences juridiques au regard du droit international?
Évidemment, ces nouvelles mesures préparent en fait une annexion en bonne et due forme de la Cisjordanie. Il faut souligner qu'elles actent la fin des accords d'Oslo, puisque ces mesures sont en contradiction flagrante et totale avec le droit international en général, avec les résolutions du Conseil de sécurité, l'avis consultatif émis récemment par la Cour internationale de justice. En ce qui concerne les conséquences au regard du droit international, on considère la Cisjordanie comme étant un territoire occupé et qui donne le droit au peuple à résister à l'occupation de toutes les façons, y compris la résistance armée. Mais nous savons tous que l'entité sioniste n'en a cure du droit international et qu'elle prend des mesures qu'elle sait contraires au droit international, mais elle est en quelque sorte rassurée par l'impunité et par le silence de la communauté internationale, ou du moins par son inaction par rapport aux mesures unilatérales qu'elle prend.
Face à la multiplication des critiques, pourquoi la communauté internationale semble-t-elle incapable d'imposer des mesures concrètes pour freiner ces décisions?
Même Trump a déclaré qu'il n'est pas pour l'annexion de la Cisjordanie. Les réactions des principaux États occidentaux, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., sont en fait des réactions qui visent principalement à se dédouaner vis-à-vis de leur propre opinion publique et vis-à-vis de peut-être certains États arabes alliés. Mais en fait, ils ne feront rien du tout contre l'entité sioniste, ils ne feront rien du tout pour prendre des mesures concrètes, même de faire payer un prix à l'entité sioniste par rapport à ces mesures.
Et quelles répercussions ces annonces peuvent-elles avoir sur la population palestinienne et sur la perspective déjà fragilisée d'une solution à deux États?
Ces annonces, comme on l'a dit, sonnent le glas des accords d'Oslo, de tout le processus d'Oslo, et exposent bien évidemment la population palestinienne de Cisjordanie à de sombres perspectives, puisqu'il s'agit clairement d'une mise en œuvre d'une politique d'annexion à court ou à moyen terme de toute la Cisjordanie. Évidemment, dans l'esprit des dirigeants sionistes actuels, un État palestinien est une solution totalement refusée, totalement mise à l'écart, et l'entité sioniste cherche à mettre en œuvre une politique de fait accompli, une politique de terrain qui, justement, empêche d'une manière structurelle la création d'un État palestinien.
Merci Monsieur Adnan Liman d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et professeur de droit public et de relations internationales.
Zoom sur le monde avec Liesther Reni.
On continue de vous accompagner en musique dans le magazine avant de retrouver le reste de l'actualité.
Trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say.
is great, the price is high. Take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. Cause this is where the one who knows meets the one who doesn't care.
Et si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans le magazine Place au correspondant du jour.
Le correspondant du jour.
Direction Tizi Ouzou avec Mohamed Haouchine pour faire le point sur l'avancement du projet d'extension du téléphérique, un chantier attendu qui devrait améliorer la mobilité et accompagner le développement de la région.
Inauguré depuis 5 ans déjà, le téléphérique de Tizi Ouzou est devenu un moyen de transport urbain très appréciable dans la ville des Genêts, dans la mesure où il permet aux citoyens d'éviter de gros problèmes d'embouteillage, notamment à la nouvelle ville et au centre-ville, surtout lors des heures de pointe. S'il faut rappeler que ce téléphérique doit couvrir une distance de 5,5 km de la gare multimodale de Bohénoun jusqu'au village de Rajaouna situé sur le mont Bélo, avec un total de 6 stations, il est utile de préciser que pour le moment, seules 4 stations sont desservies, soit la gare de Bohénoun, la nouvelle ville, le stade du 1er novembre et le quartier de Mdouha, situé presque au centre-ville. Mais voilà que le plan d'extension de ce téléphérique avance à grands pas pour desservir encore les 2 dernières stations de l'hôpital du Bellois, situé sur les hauteurs de la ville, et enfin la 6e et dernière station pour desservir les deux grands villages de Rajaouna sur les hauteurs du mont Belwa. C'est ce qui fait que les autorités wilayales et les responsables du ministère des Travaux publics ne ménagent aucun effort en tout cas pour finaliser enfin ce projet de téléphérique d'une distance de 5,5 km qui exigera une durée de 12 minutes à peine, ce qui constituait il y a quelques années un rêve devenu aujourd'hui réalité. Du coup, les citadins, tout comme les passagers de la ville déjeuner, auront désormais l'avantage de disposer d'un moyen de transport urbain et aérien qui leur permettra de rallier rapidement les centres névralgiques de la ville, autrement dit la nouvelle ville, l'université Mouloud Mamri, le CHU Mohamed Nedjel, le centre-ville et les sièges de l'APC et de la Wilaya, puis encore la haute ville, l'hôpital du Belwa et les villages environnants, le tout accessible à des prix très abordables. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Djichen 3.
C'était un jour un correspondant, place à la musique pour vous accompagner et on revient avec l'actualité culturelle, c'est dans quelques instants.
We'll be right back.
17h45 minutes dans le magazine, on retrouve tout de suite l'actualité culturelle. Nadia Siassi nous emmène à la rencontre de Nesrine Helali, médecin, thérapeute et poétesse. Elle marie peinture et poésie pour créer des œuvres qui apaisent l'esprit, éveillent les émotions et ouvrent un véritable chemin vers le bien-être intérieur.
Nesrine Helali, vous êtes artiste plasticienne, autodidacte, vous êtes coach, vous êtes poétesse et vous avez une technique particulière pour présenter vos œuvres colorées.
J'ai baigné depuis l'enfance dans le dessin et dans l'écrit, c'est-à-dire la poésie. Après mes études de médecine, j'ai renoué un peu avec cette passion-là et j'ai voulu justement créer un concept où je pouvais réunir ces deux passions. C'est pour ça que ça avait débuté au tout départ parce que ce que j'avais appelé l'envolée des mots en tableau, c'est-à-dire chaque œuvre réalisée avait sa propre poésie.
Nous avons de belles surprises qui nous attendent les semaines à venir à l'occasion de la fête des mères. Nous avons un beau tableau, cette image et cette affection, cette maternité, la maman et son enfant.
L'affection maternelle, elle est innée chez nous, elle est omniprésente et j'ai voulu la représenter et je l'ai déjà fait depuis très longtemps. Ma poésie était très simple. Maman, un mot bien suffisant pour témoigner d'une éternelle affection.
Les yeux fermés de la maman et de l'enfant. Mm-hmm. Tout est symbolique dans votre tableau, Nesrine Helali.
Les yeux fermés appellent à la méditation intérieure, appellent au ressenti. Quand on ferme les yeux, on ressent intensément les choses. D'accord? C'est pour ça que la maman qui ferme les yeux avec son enfant ressent cette connexion.
Les nouvelles œuvres de Nesrine Helali seront présentées pour le grand public le mois de mai prochain à la galerie Azouar de Babzouar à Alger.
C'était le reportage culturel avec Nadia Siassi. On vous accompagne en musique avec The Weeknd, I Feel It Coming.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch. We don't have to rush.
Et on se retrouvera juste après le sommaire du journal de 19h pour la deuxième partie de notre magazine. Au programme, la rubrique TIC et médias. Avec Reda Menassel, nous parlerons d'une innovation fascinante. Un nouveau cuivre ultra résistant conçu grâce aux nanostructures. Une avancée qui pourrait transformer de nombreux secteurs industriels et technologiques. Nous ferons également le point sur l'actualité sportive avant de retrouver Selim Brahimi pour son entretien avec le nouveau directeur de l'Opéra d'Alger, Mourad Snoussi, qui nous dévoilera sa vision et ses projets pour la scène culturelle. Il est 18h, vous retrouvez tout de suite le sommaire du journal de 19h avec Nariman Mendil. Bonsoir Nariman.
Bonsoir Leïla, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce mercredi 11 février, réunion hebdomadaire de l'exécutif, elle est présidée par le Premier ministre. Il a été question de développement local et de la consolidation de la sécurité alimentaire. Algérie réitère son engagement pour le renforcement de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie l'a rappelé à Addis Abeba. Ahmed Attaf prend part au sommet exécutif de l'organisation panafricaine. La réunion prépare le sommet de l'UE prévu le 14 et 15 février dans la capitale éthiopienne. 66 ans après la première explosion nucléaire française à Regen, les conséquences sont irréversibles. Les populations locales paient encore un lourd tribut. Le combat pour la reconnaissance des crimes coloniaux et la lutte contre la pensée coloniale se poursuivent. Nous y reviendrons dans l'édition. Ramadan, c'est dans quelques jours. Les marchés ne désemplissent pas. Au grand bonheur des commerçants, l'heure est aux derniers achats. Certains ménages consacrent tout un budget à ce mois sacré. Les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles pour maintenir la stabilité de l'offre et des prix. L'Union des commerçants rassure. Ramadan, c'est aussi le mois de la solidarité. Nous irons à Soukhara sous la prime destinée aux familles démunies et déjà versées. C'est le dossier de l'édition. Les vents forts sont de retour dans le nord et les hauts plateaux. Météo Algérie a émis un nouveau BMS, des rafales pouvant atteindre les 90 km/h. Sonelgaz a déjà subi d'importants dégâts dus au vent, mais aussi aux actes de vandalisme. Le groupe sensibilise les citoyens. Trump reçoit le premier ministre sioniste aujourd'hui, dont le plan est d'occuper totalement la Cisjordanie. Le président américain s'y oppose. La Ligue arabe se réunit en session extraordinaire ou en session d'urgence. Défendre sa cause par le football, les Sahraouis s'y mettent. Leur fédération de football est créée officiellement aujourd'hui à Alger à l'occasion d'un match gala qui se jouera vendredi prochain au Nelson Mandela Stadium. Tous ces titres seront développés dans l'édition de 19h, mais tout de suite, c'est la météo avec Leïla Dupour.
Bonsoir à toutes et à tous. Les prévisions pour cette nuit sur les régions nord, littoral, intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Vigilance, les vents souffleront d'ouest à sud-ouest entre 30 et 50 km/h sur les zones côtières et proches des côtes avec des rafales pouvant atteindre localement les 90 km/h. Par ailleurs, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux. Ces derniers seront plus fréquents sur les régions côtières et intérieures du centre et de l'est avec un risque de quelques pluies en soirée. Par ailleurs, les vents seront orientés de ouest à nord-ouest de 20 à 40 km/h se renforçant en soirée jusqu'à 60 km/h sur les hauts plateaux ouest et centre, avec des fortes rafales accompagnées de soulèvements de sable. Sur les régions sahariennes, le temps sera généralement dégagé avec à partiellement voilé avec des vents d'ouest à nord-ouest de 20 à 30 km/h sur le Nord-Sahara, les oasis et le Nord-Sahara oriental. Les températures pour ce soir, il fera 14 degrés à Alger, 16 à Chlef, 19 à Annaba, 14 à Constantine, 13 à Betna, 18 degrés à Tizi Ouzou, 19 degrés à Oran et sur les régions sahariennes, il fera 30 degrés à Ain Ghazem, 28 degrés à Hassim Saoud, 25 degrés à Loued, 24 degrés à Biskra et 34 degrés à Borj Beji Mokhtar.
Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man.
Bienvenue dans la deuxième partie du magazine. Il est 18h10. On entame cette deuxième partie avec du sport en compagnie de Rostam Yahya Chérif. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va et vous?
Très bien, vous courez un peu partout.
Oui, comme la phobie. C'est du sport. Oui.
Et on va parler de ce moment historique, la création de la Fédération Sahraoui de football.
Eh oui, la République arabe Sahraoui démocratique a désormais sa Fédération de football. L'annonce a été faite aujourd'hui à Alger et tous les détails avec celui qui était présent à cet événement historique, Islam Tazipt.
La République arabe sahraoui démocratique a désormais sa fédération de football. Créée le 9 février dans les camps de Tindouf, l'institution a été officiellement présentée ce mercredi à l'hôtel Mazafran à Alger. Et ce, en la présence de plusieurs personnalités telles que Mohamed Saïd Dadi, secrétaire général du ministère sahraoui du sport, Saïd Al-Ayashi, président du comité de soutien au peuple sahraoui, ainsi que celle de l'ensemble des joueurs et des membres du staff technique de l'équipe sahraoui. Avec la création d'une fédération et d'une équipe de football, le sport devient ainsi un levier pour exister sur la scène internationale et diversifier les moyens de lutte de la cause sahraoui. La sélection sahraoui marche ainsi dans les pas de l'équipe du FLN. Comme elle veut exister avant d'avoir un état pleinement reconnu. On écoute à ce propos Yahya Baba Ahmed, le tout premier président de la Fédération sahraoui de football.
Dès les constructions, déjà, après la deuxième étape, la création des championnats, tout ça. Après la troisième étape, c'est ça, très important, c'est le développement sportif. Là, oui, on a besoin de tout le monde aussi, plus qu'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin que toutes les fédérations de football de les pays amis reconnaissance de la Fédération sahraoui de football comme un organisme officiel. Et à partir de là aussi, on demande, pourquoi pas, la participation de l'État sahraoui dans la compétition de la CAF ou de l'ECHAN ou d'autres compétitions internationales.
La priorité est désormais de créer un championnat national, puis à terme, intégrer la CAF et pourquoi pas un jour siéger à la table du football mondial.
Et on passe au badminton, Rostom. Les sélections nationales, messieurs et dames, se qualifient pour les demi-finales du championnat d'Afrique.
On va commencer, alors aux dames, par la sélection nationale féminine qui s'est qualifiée aux dépens du Cameroun. C'était cet après-midi, lors de sa victoire par 3-1 en quart de finale, grâce aux victoires de Hala Bouksani et Malek Ouchfoun en simple et en double grâce à la paire Yasmine Chibah et Linda Mazri. En demi-finale, prévue demain, nos dames affronteront l'Afrique du Sud, alors que l'autre demi-finale mettra aux prises l'Égypte au Nigeria. Je rappelle qu'en championnat d'Afrique par équipe pour le badminton, bien sûr, la sélection nationale, messieurs et dames, sont champions d'Afrique en titre. Et d'ailleurs, chez les messieurs, ça vient de se terminer en quart de finale. La sélection nationale a battu le Ghana 3-0 grâce aux victoires de Adel Hamak, Mohamed Abdelrahim Belarbi et Kouseila Mamri également. Les demi-finales sont prévues demain pour la sélection nationale, messieurs, et on connaîtra dans quelques minutes le prochain adversaire. Ça sera soit l'Égypte ou le Nigeria pour la demi-finale en badminton chez les messieurs. Je rappelle donc chez les dames, ça sera Algérie, Afrique du Sud demain matin et les finales auront lieu demain après-midi. Petit rappel des titres de l'année dernière puisqu'on est tenant du titre donc chez les messieurs et chez les dames, donc en mixte. On est également tenant du titre en double messieurs avec la paire Kouseila Mamri et Sabri Mdel et ainsi qu'en double mixte avec les frères et sœurs Kouseila Mamri et Tanina Mamri pour les épreuves individuelles. Eh bien, les épreuves débuteront ce vendredi 13 février pour le badminton en individuel.
Et on espéra que ce vendredi 13 leur portera bonheur.
On le souhaite.
On va parler de judo à présent. La ville d'Oran abritera à partir de demain les championnats d'Algérie.
Et ces championnats d'Algérie qui s'étalent sur 3 jours et ce jusqu'au samedi 14 février. La présentation de ce championnat d'Algérie signé Ali Hamouch.
Cette année, les yeux des amoureux du judo seront braqués sur Oran. El Berya qui prend le relais d'El Berja, Alger qui s'est habitué à abriter cet événement depuis quelques années. Oran aura le privilège d'abriter le premier championnat d'Afrique des clubs, comme nous l'a révélé le directeur technique national Abdelmalek Ait Moufok.
Cette année, l'Algérie a le privilège d'organiser courant 2026 le premier championnat d'Afrique des clubs champions, qui va se dérouler à Oran. Logiquement, il est programmé vers le mois d'octobre-novembre. Donc, le championnat d'Algérie senior va être un test event du championnat d'Afrique des clubs champions. Voilà. Après, Oran, c'est une grande ville de judo aussi. La salle omnisport du complexe Milodef, qui répond aux normes. C'est un bijou, c'est un acquis pour le sport algérien.
Ce championnat d'Algérie senior se déroulera sur 3 jours à partir de ce jeudi au niveau de la très belle salle Omnisport du complexe Miloud Hedfi. 14 catégories de poids seront concernées par la compétition, 7 chez les messieurs et 7 chez les dames. Alors si vous êtes du côté de la salle Miloud Hedfi d'Oran, allez-y y faire un tour pour assister ce jeudi à l'entame du championnat d'Algérie de judo avec 5 finales au programme à partir de 16h.
Et on sera à présent Ali Hamouche qui nous fera vivre hein, Lilia cette édition du championnat d'Algérie de judo. Et on reste avec le judo en prévision de la nouvelle saison. La fédération algérienne a décidé de se doter d'une nouvelle plateforme afin de suivre les athlètes et les compétitions nationales, dont le championnat d'Algérie senior qui débutera donc demain à Oran, un championnat qui a commencé à faire parler de lui depuis quelques jours à cause du cas d'un athlète, celui de Abdeslam Belbelhout, qui ne prendra pas part à la compétition alors qu'il a terminé à la 7e place du dernier championnat du monde junior. Ali Hamouche revient sur les raisons de cette absence de marque et les motivations de la Fédération algérienne de judo d'aller vers une nouvelle plateforme.
La Fédération algérienne de judo a décidé d'opter pour une nouvelle plateforme pour l'enregistrement et le suivi des athlètes à l'échelle nationale. Une démarche qui vise aussi à se mettre au diapason de ce qui se fait à l'international par la FIJ, la Fédération internationale de judo, pour gérer les différentes compétitions. L'Algérie devient ainsi un précurseur sur le continent africain, comme nous l'a fait savoir le directeur technique national Abdelmalek Ait Moufak.
C'est une plateforme de gestion des licences et des compétitions. La fédération avait une plateforme, mais qui ne gérait que les phases nationales. La nouvelle plateforme permet d'avoir en temps réel de tout ce qui se passe, de toutes les compétitions à partir des phases de wilaya. L'Algérie est le premier pays africain à intégrer cette plateforme.
La mise en pratique de cette nouvelle plateforme coïncide avec la première compétition nationale de l'année 2026, le championnat d'Algérie senior en individuel prévu ce jeudi à Oran. Les clubs ont salué cette démarche de la Fédération algérienne de judo. Toutefois, certains, à l'image du judo club d'El Harraj, ont exprimé quelques objections. Saïd Kouimia, le président du judo club d'El Harraj, estime qu'on devait laisser un temps d'adaptation au club.
Farahna qui est une plateforme où il débat les compétitions en temps réel, mais il faut un temps où maintenant on s'adapte. On ne peut pas, première année, t'appliquer à 100%. On est en train de subir le problème. Ou à la phase, on ne peut pas appliquer la réglementation à la FIJ parce que c'est une phase éliminatoire. Maintenant, de choisir le meilleur athlète. Avec un cas, ce sera les années des fêtes. Un athlète qui a été dans le Harraj. Il a perdu le régional. Dernière une lettre, qualifié national. C'est le champion d'Algérie. Judo Club le Harraj qui donne une demande pour dire voilà, qualifié Hada parce qu'on sait bien. L'athlète, s'il a perdu la journée, c'est une erreur technique, c'est une erreur tactique.
Avec l'avènement de cette nouvelle plateforme, le cas d'un athlète a fait beaucoup parler de lui, notamment à travers les réseaux sociaux. Il s'agit de Abdeslam Belbelhout, 7e au championnat du monde junior, champion d'Afrique junior et médaille d'or à l'Open de Yaoundé. Belbelhout ne prendra pas part au championnat d'Algérie senior. Une absence qui a un rapport avec la nouvelle plateforme. Saïd Kouimia, le président du judo club d'El Harraj, monte au créneau pour défendre son athlète.
Belbelhout, c'est classe. De l'âge 19 ans, 20 ans, 21 ans, il ne peut pas garder le poids d'Yalo 73. Mais il a essayé de garder le poids d'Yalo sur la demande de la fédération, mais il n'a pas pu parce qu'il est en plein développement. Bouchdel, il a participé au régional pour 81 kilos. C'est à la deuxième tour avec Souila Jamal. Alors, il a perdu le combat d'Yalo. Il n'est pas classé parmi les 8 premiers, mais il ne peut pas participer au championnat national. Mais c'est un athlète qui a prouvé le 7e championnat du monde. Si on va éliminer Hadam régional, éliminer ou gagner les meilleurs. Maintenant, même national, là.
Du côté de la Fédération algérienne de judo, par la voix de son DTN, Abdelmalek Ait Moufak, on estime que Belbelhout a été éliminé sur le tatami et non pas par la plateforme. Toutefois, on consent du côté de la Fédération à faire engager Belbelhout dans la catégorie des moins de 73 kilos et non celle des moins de 81 kilos, en l'incluant dans le quota de la DTN.
Les athlètes qui ont été éliminés lors des phases de wilaya ou la régionale ne peuvent pas aspirer à être présents à la phase nationale. C'est aussi simple que ça. Pour Belbelhout, il a participé à la phase régionale à Alger et il a été éliminé dans sa nouvelle catégorie de poids. La position de la fédération était que s'il voulait s'engager en 73 kilos, il allait être engagé dans le quota de la DTN. La SDV qu'il devait changer de catégorie de poids. Il s'est engagé dans la catégorie des 81 kilos et il n'a pas pu se qualifier parmi les 8 premiers comme la région d'Alger a un quota de qualifiés. il a été éliminé sur le tatami.
Cette option, à savoir faire baisser le poids de l'athlète des moins de 81 kg à moins de 73 kg, est refusée catégoriquement par Abdeslam Belbelhout et son club, le Judo Club d'El Haraj, sur instruction médicale, comme l'indique le président du club, Saïd Kouimia.
Pour le poids, on ne peut pas exiger, un homme qui a 18 ans, 20 ans, 21 ans, exiger de garder la même catégorie. Nous avons dit, nous avons dit, le médecin a dit qu'il fait 83,700 grammes. Est-ce qu'il peut 10 kilos? On n'exige pas pour un athlète qui a le poids. Il a dit qu'il était 60 في الجزائر عندنا دو كومبيتيسيون يديرون في العام ان اتلاتي في ريجيونال ناسيونال وتحبس خلاص معناتها يروح صاي يدي لي فاكونس.
En attendant, peut-être un revirement de dernière minute, Abdeslam Belbelhout devra prendre son mal en patience et attendre la prochaine compétition nationale. Entre-temps, il y aura également les stages et les compétitions avec la sélection nationale.
Autre événement important ce week-end, la création de la Ligue de basketball amateur. Awesome.
Oui, ça sera ce samedi, 14 février, samedi matin à 9h30. Ça sera à Stawali et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct au téléphone le président de la Fédération algérienne de basketball, monsieur Mehdi Oussif. Bonsoir. Monsieur Mehdi Oussif ? Président de la Fédération algérienne de basketball qui devrait être avec nous, normalement le président de la Fédération, pour nous parler de la création de la Ligue nationale de basketball amateur. Cela a été décidé le 31 août dernier lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de basketball. La Fédération a ensuite eu l'accord du ministère des Sports en début janvier, c'était le 18 janvier plus précisément, pour la création officielle de la Ligue nationale de basketball amateur. Et ce samedi donc aura lieu l'assemblée générale constitutive de la Ligue nationale de basketball amateur. C'est un plus pour le basketball algérien. Cela permettra à la fédération de se détacher de l'organisation des championnats de superdivision messieurs de la nationale 1 dames. Nous avons avec nous le président de la Fédération algérienne de basketball, monsieur Mehdi Oussif, bonsoir.
Bonsoir, Rostam.
Alors, président, comme je viens de le dire, ça a été adopté lors de l'Assemblée générale extraordinaire le 31 août dernier, la création de la Ligue nationale de basketball amateur. Vous avez eu l'accord du ministère des Sports le 18 janvier dernier. Président, première question, pourquoi avoir décidé de lancer cette Ligue nationale de basketball amateur?
Bon, pour la Ligue nationale de basket, le choix s'était fait déjà bien avant. On a décidé dans l'Assemblée extraordinaire de créer la Ligue nationale de basketball amateur parce que cette initiative rentre dans le cadre de restructurer la discipline, la fédération. Le programme du président, mon programme présenté à l'Assemblée générale, c'était dans le programme, la Ligue nationale, c'était dans le programme. C'est un moyen de bien gérer la compétition, mieux que la fédération qui gère la compétition. On donne beaucoup de flexibilité à la fédération de voir dans la formation des entraîneurs, la formation des arbitres, la promotion de la discipline. Mieux que gérer la compétition. La compétition, ça rentre, c'est vrai, dans le cadre de la développement de la discipline, mais le plus important de le faire maintenant, c'est de faire progresser la discipline à travers les équipes nationales, la formation des arbitres, la formation des entraîneurs. C'est la vision de l'Assemblée générale et c'est la vision de la politique fédérale du président.
Alors, président, concernant les moyens et les ressources pour cette Ligue nationale de basketball amateur qui sera créée ce samedi, est-ce qu'il y aura un budget que la fédération va consacrer à cette ligue ou ça sera à la ligue d'aller chercher le financement pour la ligue?
La Ligue, si elle prend les clubs, tous les clubs affiliés à la fédération, c'est automatiquement qu'elle prend les engagements des clubs pour gérer la compétition. Ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource, c'est une instance décentralisée de la fédération. Elle peut chercher des sponsors, elle peut chercher d'autres moyens de subventionner. Ils sont libres. Il peut garder les engagements des clubs pour gérer la compétition en premier temps. Et après, c'est à la Ligue de chercher d'autres moyens de financement.
Président, dans combien de temps vous jugerez-vous cette expérience comme étant une expérience réussie, l'expérience de la création de la Ligue nationale de basketball amateur?
Non, j'ai pas bien entendu la question.
Par rapport au temps de cette expérience de la création de la Ligue nationale de basketball amateur, vous donnerez combien de temps à la Ligue pour donner raison, pour avoir des satisfactions par rapport au club?
Normalement, dès la première année, qu'on peut voir si ça marche, si ça marche pas, parce que le fonctionnement de la Ligue nationale, c'est une convention entre la fédération et la Ligue nationale. La bonne gestion, elle est assurée. Toujours la tutelle, c'est la fédération. On essaye toujours de faire, c'est-à-dire accompagner la Ligue, surtout sur les premières années. Mais je vois que dès la première année, on peut dire si on a réussi par la création de la Ligue ou pas.
Et donc, il était avec nous tout à l'heure, le président de la Fédération algérienne de basketball, Monsieur Mehdi Oussif. On a parlé de la création, l'importance de créer cette Ligue nationale de basketball amateur. Monsieur Mehdi Oussif, ça sera ma dernière question. Hein. Est-ce que la création de cette Ligue, est-ce qu'on peut le dire, est le début d'une nouvelle ère pour le basketball algérien?
Oui, je pense que la création de la Ligue, c'est une chose qui va pousser le basket vers l'avant, puisqu'on essaye et on voit ce qu'a des grands. Si on fait la création et l'objectif de la création soit éteint, on peut estimer que la compétition c'est une lourde tâche, mais la fédération, le rôle de la fédération, c'est de faire progresser le basket. Le développement du basket, c'est pas la compétition, c'est les équipes nationales, c'est la formation des entraîneurs, c'est la restructurer la fédération d'une autre manière de gestion. Je vois que c'est une nouvelle méthode de gestion. On essaye de faire mieux par cette initiative. Inch'Allah, ça sera une bonne chose, Inch'Allah, pour le basket algérien.
C'est vrai qu'en plus, plus le championnat Super Division Messieurs, par exemple, ou même la Nationale Une Dame est meilleur en termes de qualité, et ça sera bénéfique pour nos équipes nationales. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Oussif, président de la Fédération algérienne de basketball, d'avoir été parmi nous pour parler de la création de cette Ligue nationale de basketball amateur.
On termine Rostom avec du football pour parler des championnats étrangers.
Avec la suite de la 26e journée du championnat d'Angleterre, avec 5 matchs au programme ce soir à 20h30. Nottingham Forest accueillera Wolverhampton. Alors Aston Villa affrontera Brighton. Crystal Palace également à 20h30 fera face à Burnley. Manchester City de Ryan Aitnouri qui sont deuxième au classement, je rappelle, avec 50 points, 6 points derrière le leader Arsenal accueillera Fulham. Et puis à 21h15, Sunderland face au champion en titre Liverpool. La suite, ça sera suite et fin, ça sera demain de cette 26e journée à 21h. Brentford face au leader Arsenal. Et puis cette information, on le savait depuis hier soir, l'Olympique de Marseille et son entraîneur Roberto Di Zerbi ont annoncé mettre fin à leur collaboration d'un commun accord dans la nuit de mardi à mercredi.
Et c'était l'essentiel de l'actualité sportive en votre compagnie, Rostom Yahya Chérif. On vous retrouvera à 19h dans le journal en compagnie de Nariman Mendil. La deuxième partie du magazine se poursuit en musique avant de retrouver le reste de l'actualité. Cette deuxième partie du magazine avec le reste de l'actualité culturelle. Avec l'Opéra d'Alger qui s'apprête à ouvrir ses portes aux amateurs de culture à quelques jours du mois de Ramadan, un programme riche et une nouvelle vision pour la gestion de l'opéra sont à découvrir avec son nouveau directeur Mourad Nossi qui s'est entretenu avec notre collègue Selim Brahimi.
Bonjour monsieur Mourad Snoussi, directeur général de l'Opéra d'Alger. Vous êtes fraîchement nommé à la tête de cette grande institution. Quel est le regard ou la vision, le souffle nouveau que vous allez apporter à l'Opéra d'Alger?
Moi je connaissais déjà l'Opéra d'Alger, même en tant que directeur du Théâtre d'Oran, on collaborait, donc je connaissais l'opéra, je connaissais le personnel, l'encadrement. Je savais qu'il y a une assise importante en matière d'organisation. Puis moi je suis venu pour apporter ma touche, c'est-à-dire que ça soit une accumulation d'expérience, parce qu'il y a des gens qui sont passés avant moi, qui ont fait du bon travail. Donc ce qui est bien, on va le consolider, le maintenir, le valoriser. Ou ce qu'on peut apporter comme expérience, comme apport, on le fera, parce que la vie professionnelle, c'est comme ça. Moi, j'ai remarqué qu'il y a de petites mesures à prendre qui peuvent déclencher de grandes choses. Par exemple, moi, j'ai remarqué qu'en matière de réservation sur place, selon ma petite expérience, des horaires inappropriés, parce que c'était des horaires calqués sur les horaires administratifs. Et les horaires administratifs, les gens travaillent. Donc, première mesure, juste après le ramadan, au lieu que les gens venaient ici pour réserver entre 8h et 16h, maintenant ça va être entre midi et 20h. Et puis même quand ils vont venir, ils vont pas trouver le lieu vide, parce que l'espace, le hall d'entrée, il est magnifique, il est beau, mais je l'ai trouvé un peu froid. Donc, on a déjà mis en place une bibliothèque pour le public, qui sera opérationnelle dès ce jeudi. C'est une bibliothèque où les gens peuvent prendre 10-15 minutes pour feuilleter un livre, mais aussi ramener un livre prendre mettre un, ramener deux et prendre deux. Et comme ça, les livres vont circuler entre les mains, entre les histoires des gens. Troisième mesure, on a des galeries qui sont fermées. On va les ouvrir aux artistes. Donc, les artistes peuvent exposer leurs travaux concernant les beaux-arts ou l'artisanat. Donc, si c'est uniquement pour l'exposition, c'est une démarche. Si c'est pour la vente, c'est une autre démarche. Mais nous, on essaiera de faciliter la chose. C'est une vision un peu globale qu'on va essayer d'installer. Ça, c'est juste des petites mesures parce que moi, j'ai un projet un peu lourd. On va lancer dès ce Ramadan une formule famille, plus de 3 personnes. Donc, la 4e personne, elle aura une place gratuite. Pour les personnes aux besoins spécifiques, une réduction de 50% parce que les gens ne savent pas qu'il y a des espaces dédiés à eux. Donc, on va communiquer dessus. Donc, voilà à peu près ce qui nous attend. Ça va plaire aux gens, mais là, on va l'annoncer juste après le Ramadan.
Une grande question se pose pour la grande institution, la Maison de l'Opéra. Deux regards, deux visions sur le plan culturel. Il y a ce qu'on appelle la culture élitiste, il y a aussi la culture populaire. Quel choix vous allez porter justement pour l'avenir de cet opéra à travers le choix artistique?
Non, le choix artistique, c'est pas un regard personnel, c'est le regard de l'institution. C'est-à-dire, ça c'est l'opéra. Donc, moi, j'ai comme mission de travailler pour l'excellence. Elle a ses règles, donc on présentera ce qu'il y a de meilleur. Mais il faut qu'aussi, nous, on soit meilleur en matière d'accueil, en matière de respect des horaires, en matière d'innovation pour créer les meilleures conditions possibles. Mais ceci ne nous empêche pas de faire en parallèle un travail en direction, c'est-à-dire de la population d'une manière générale. Et là, je suis déjà sur un projet. À partir de la semaine prochaine, on va faire sortir notre ballet dans un endroit sur Alger, ce qu'on appelle l'art hors les murs. Et nous comptons, pendant les vacances scolaires, organiser des ateliers de danse pour les enfants. Et les inscriptions ne se feront pas ici. Ils se feront là où on va présenter notre spectacle en dehors de l'opéra. C'est-à-dire, il y a possibilité de maintenir les deux, mais sans perturber, c'est-à-dire la logique des choses qui est, c'est un opéra, c'est pas une maison de jeunes, c'est pas une maison de culture.
Nous sommes à quelques jours du mois sacré de Ramadan et l'opéra d'Alger nous a habitués à une programmation artistique dédiée. Qu'avez-vous prévu en termes de programmation?
L'opéra a prévu un programme de 15 soirées. 15 soirées où il y aura tous les genres pratiquement algériens et il y aura aussi presque toutes les régions parce qu'il y a la dimension nationale de l'œuvre, c'est l'opéra national. Je peux donner quelques noms, il y aura Hamidou, il y aura Chaou, il y aura Chaba Yamina, il y aura du Malouf, il y aura du Rai avec Michelnet, Rabah Asma, comme ça, donc on ne peut pas donner tout, mais il y aura aussi, et là vous avez le scoop, on aura 2 concerts de Marcel Khalifa, le 28 et le 1er avec son orchestre symphonique qui va se déplacer. Et on lancera dès demain la vente de la billetterie en ligne. En même temps, on va lancer dans 2-3 jours la vente sur place avec des horaires qui peuvent aider les gens à venir.
Un mot que vous voulez rajouter, tout en souhaitant la bienvenue aux passionnés de l'opéra pour le mois de Ramadan.
Bon, je souhaite bon Ramadan à tout le monde. Je tiens aussi à remercier les collègues ici qui m'ont bien accueilli. L'opéra, il est ce qu'il est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant. Donc, chacun a apporté, c'est-à-dire sa pierre. Nous, on va essayer d'apporter aussi notre pierre et c'est comme ça qu'on servira la culture tous ensemble.
Merci de nous avoir accordé cet entretien, monsieur.
Merci à vous.
C'était l'entretien culturel avec Selim Brahimi. On continue de vous accompagner en musique dans la deuxième partie du magazine avec Say It Right de Nelly Furtado.
You even stand, or you fall when you win.
La dernière rubrique du magazine, la rubrique TIC et médias. Reda Menassel s'intéresse à une innovation fascinante, un cuivre ultra résistant développé grâce aux nanostructures, une avancée qui pourrait transformer de nombreux secteurs industriels et technologiques.
Où le cuivre est partout, dans les câbles électriques, l'électronique, les moteurs, mais il a une faiblesse bien connue, il se déforme et perd sa résistance à haute température. En 2025, des chercheurs ont franchi un cap en développant un cuivre nanostructuré capable de conserver ses propriétés mécaniques près de son point de fusion. Le principe est très très simple, il repose sur l'organisation du métal à l'échelle nanométrique. En contrôlant la taille et la distribution des grains cristallins, les chercheurs bloquent en fait les mécanismes qui provoquent habituellement le ramollissement du matériau. Le résultat est, disons-le, n'ayons pas peur de mots, c'est spectaculaire. Il y a des vidéos d'ailleurs qui le montrent très bien sur YouTube. Le cuivre conserve sa conductivité électrique tout en devenant beaucoup plus résistant à la chaleur et à la déformation. Cela ouvre des perspectives dans l'aérospatiale, l'énergie et l'électronique de puissance. Ces avancées sont particulièrement importantes pour les systèmes soumis à des contraintes thermiques extrêmes, comme les moteurs électriques de forte puissance ou encore les composants de réacteurs expérimentaux. Ce travail illustre en fait une réalité souvent mise sous le tapis. Ces grandes innovations technologiques ne reposent pas uniquement sur le numérique ou l'intelligence artificielle, mais elles passent aussi par une compréhension fine de la matière qui nous entoure à des échelles invisibles, mais ô combien décisives. À très vite.
C'était la rubrique TIC et médias avec Reda Menassel et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Ahmed à la console technique, Tahara à la régie d'antenne et notre réalisateur Ali Lahoussi. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres actualités, même heure, même station.
He's as good as a